Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Laurence Garcia.
L'heure de l'info éco plus avec Didier Testo, fondateur de la Bourse et la Vie TV. Bonjour Didier, joyeux Noël.
Bonjour Laurence, joyeux Noël également et joyeux Noël à tous.
Alors, on commence avec une histoire d'entreprise qui en 2022 va devoir en écrire une autre, notamment pour ses salariés et ses clients. Il s'agit bien sûr, tout le monde connaît cette entreprise, Pierre et Vacances.
Oui, alors que certains d'entre vous sont peut-être d'ailleurs dans ces établissements au sport d'hiver, c'est le numéro un européen des résidences de loisirs, hein, et le groupe a dû faire face bien entendu à la crise Covid, entamer une profonde transformation. Alors il a été miné par une dette trop importante, l'arrêt des activités touristiques en 2020 et 2021. Il a donc entamé une procédure de conciliation avec ses créanciers et il vient d'annoncer avoir trouvé un accord pour ce qu'on appelle une recapitalisation importante avec une conversion de dette. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans un climat d'incertitude, le groupe devait trouver en urgence de nouveaux fonds et rassurer les investisseurs. Il possède les marques, on le rappelle, Pierre et Vacances, Center Park, Maeva, Adagio. Et il a conclu un accord d'exclusivité de négociation jusque fin janvier avec un groupe d'investisseurs composé d'Alcentra, Fidera et Altream.
Alors, si je vous suis bien avec cette opération financière, si elle aboutit, le fondateur du groupe, Gérard Brémond, verrait peut-être sa participation fondre comme neige au soleil, Didier, c'est ça?
Oui, c'est ce qu'on peut dire, de 49,6% à travers son holding City à 4%, c'est effectivement un vrai changement et c'est la fin d'une époque pour Gérard Brémond qui, s'il a pu constituer un leader européen en 50 ans dans ce domaine des résidences de loisirs, a laissé quand même beaucoup de questions en suspens sur la pérennité du business model, le concept de nouvelles propriétés, des particuliers qui achètent à des prix réduits des appartements qu'ils lui confient en location tout en réservant des droits de séjour. Alors ça a été appliqué à la mer, à la montagne, a peut-être ses limites, certains en tout cas le pensent, certains investisseurs pensent même qu'il n'est pas viable. En tout cas, ça fait quand même 50 ans que ça dure. Et Gérard Brémond va devenir salarié d'une des entités du groupe. Les actionnaires doivent se prononcer le 10 février prochain sur ce projet stratégique et donc on verra la nouvelle histoire de ce groupe avec ses nouveaux investisseurs.
Alors Didier, un autre sujet qui intéresse tous les gourmands, ça tombe bien en cette période des fêtes, et notamment tous les amateurs de pâtes à tartiner, est-ce qu'il faut craindre une pénurie de noisettes?
Oui, alors ça provient de l'analyse d'un expert cité par la presse financière qui estime que la crise monétaire en Turquie risque d'avoir un effet d'entraînement sur toute la chaîne d'approvisionnement mondiale des noisettes et donc sur une célèbre marque bien connue qui commence par N.
Je vois très.
Voilà, vous ne savez peut-être pas, mais la Turquie est le premier producteur mondial de noisettes. La Turquie méconnaît donc un effondrement monétaire qui rend la production de noisettes plus chère, ce qui pourrait donc entraîner une pénurie dans cette chaîne d'approvisionnement. Et ça aura bien sûr un impact sur les acheteurs. Cette fameuse marque à peu près achète 30% en Turquie, donc c'est important. Et les agriculteurs turcs disent qu'il est devenu plus coûteux d'acheter des produits importés avec l'inflation, tels que les engrais, les semences qui sont utilisées pour produire ces noisettes. Pour cette raison, certains agriculteurs produisent moins de noix, et ce qui pourrait entraîner des pénuries. C'est ce qui est écrit notamment le Wall Street Journal. Et le Monde est au bord de la pénurie de noisettes. C'est Turgan Zulfikar, qui est un consultant basé aux États-Unis, qui conseille aux entreprises, les entreprises turques sur leurs entrées sur le marché américain. Il dit même qu'il faudrait peut-être faire des stocks. Il n'y a qu'un pas. Alors, il y en a qui font des stocks de pâtes de sucre. Peut-être qu'ils vont faire des stocks de pâtes à tartiner.
Ah là là. Autre sujet dans le journal Eco, Didier, le groupe Bolloré qui se met en ordre de marche pour la génération suivante.
Oui, alors là, on peut le dire, pas de trêve de confiseur pour le groupe Bolloré. Le géant français a annoncé déjà avant Noël avoir reçu une offre de 5,7 milliards de l'armateur italo-suisse MSC pour mettre la main sur son pôle Bolloré Africa Logistique, toutes ses activités en Afrique, une branche historique qui a été considérée longtemps comme une vache à lait du groupe, de l'homme d'affaires Vincent Bolloré, qui lui a permis notamment de financer un certain nombre de raids financiers. Il y a des lignes ferroviaires, des ports, mais l'État français, on le sait, regarde aussi ce dossier de près, compte tenu des enjeux politiques.
Ouais, sachant que cette vente devait avoir lieu juste après que Vivendi ait tracé sa route chez Lagardère, c'est
oui,
ça ?
Oui, même si certains pseudo-spécialistes en doutaient, ceux qui connaissent Vincent Bolloré savait ce qu'il allait faire chez Lagardère. Il a tout simplement annoncé l'acquisition des actions Lagardère détenues par Amber Capital. Il détiendra 45,1% du capital de Lagardère à l'issue de cette opération. Il déposera une OPA autour de 24,10 €. Et puis, en mettant la main sur Lagardère, Bolloré ajoute à son empire média, déjà propriétaire de Canal+, de Prisma, Paris Match ou de CNews, qu'on connaît bien, le journal du dimanche, Hachette, Europe 1, les boutiques Relais. Des annonces qui arrivent exactement qui est important, au moment où Vincent Bolloré avait décidé de prendre sa retraite, qui est prévue le 17 février 2022. Alors, on le sait, les Bretons sont spécialistes des alignements des menhirs. Vincent Bolloré aura donc, lui, réussi à mettre en ordre ses affaires pour la nouvelle génération, pour ses enfants. Ce qu'il a fait en partant de l'affaire familiale Bolloré Film Plastique à Lodet, dans le Finistère, pas loin de Quimper, est une sacrée aventure capitalistique et entrepreneuriale. Il en faut du talent pour réussir toutes ces batailles. On peut le dire, la critique est facile, mais l'art d'entreprendre, lui, n'est pas donné à tout le monde. Lui est prêt pour sa bataille, celle de 2022, celle de l'élection présidentielle. Donc sa retraite sera, en tout cas, limitée.
Voilà, il nous reste une petite minute pour évoquer cette information qui ne nous a pas échappé. Elle concerne le Bitcoin, Didier.
Oui, parce que depuis le début de la spéculation autour de cette crypto-monnaie, les arguments reviennent pour les acheteurs. Ce n'est pas pareil, le Bitcoin. Personne ne le contrôle, contrairement au dollar, à l'euro, monnaie traditionnelle. Argument fort, hein. Je n'ai plus confiance dans les autorités monétaires, mais sur une crypto décentralisée, contrôlée par personne. Cela me va. Eh bien, je suis donc au regret de dire à tous ceux qui nous écoutent, qui sont allés investir dans ce type d'actifs, que la légende Bitcoin est tout simplement fausse. C'est un article du Wall Street Journal qui précise les choses clairement. Eh bien, selon une étude du National Bureau of Economic Research, les 10 000 principaux comptes de Bitcoin détiennent 5 millions de Bitcoin, soit l'équivalent de 232 milliards de dollars. Et on peut dire, donc, d'après ces chiffres, que 0,01% des détenteurs de Bitcoin contrôlent 27% des 19 millions de Bitcoin en circulation. Eh bien, effectivement, c'est important parce que ça veut dire que la majorité des Bitcoin sont dérivés de deux activités, n'ont aucune fonction économique réelle. C'est ce qu'ont déclaré également les chercheurs. Mais si effectivement, il y a ce contrôle, eh bien, ça enlève une légende au Bitcoin.
Voilà, l'info Eco Plus à réécouter, bien sûr, en podcast sur sudradio.fr avec Didier Testo de la Bourse et la Vie TV. Puis on se retrouve, bien sûr, samedi prochain. Merci Didier.
Merci.